Généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici conviés comme chaque jour de cet été au Collège de France avec France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous explorons les géométries du vivant en compagnie du neurobiologiste Alain Prochian qui a dirigé l'unité CNRS Développement et Évolution du Système Nerveux ainsi que le département de biologie de l'ENS. Comment se forme le cerveau, ce drôle d'organe fait de matière molle, pour reprendre ses propres mots? Selon quel processus morphogénétique? Ce qui intéresse Alain Prochian dans la science, c'est l'invisible sous le visible. Mon cerveau sait ce que je pense, mais ne sait pas ce que pense mon cerveau. Entré en 1976 dans le laboratoire de Jacques Glowinski au Collège de France, Alain Prochian se consacre au changement de forme des neurones. Auditeur des cours de François Jacob au Collège de France aussi, il s'intéresse à la présentation des gènes découverts au milieu des années 1980, dont la mutation entraîne une modification de la forme et de la position d'un organe, une mouche pouvant se retrouver ainsi avec une patte à la place d'une antenne. Après un séjour new-yorkais, notre chercheur décide d'étudier le rôle des homéogènes dans le codage de la forme des neurones. Plus loin, il résume. Le concept né de ses premières expériences, et dont l'étude nous tient occupés depuis 1988, est simple. Deux cellules échangeant des facteurs de transcription de cette famille se communiquent par là même une information de position et y répondent par un changement dans l'expression de différents effecteurs de la morphogénèse. Alain Prochian décrit encore. Des protéines messagères capables de passer dans le milieu extracellulaire, de pénétrer dans les cellules avoisinantes et d'en modifier la forme. Alain Prochian expérimente la science sur d'autres terrains, en travaillant notamment avec le metteur en scène Jean-François Perret et note. Il y a une part d'intuition, de rêverie dans la science, même si à un moment cela devient de la pure logique. Ensemble, ils ont créé le spectacle « Turing Machine ». Pour le neurobiologiste, Turing est un génie qui a éclairé ce qui se passait dans son labo. C'est le plus grand poète du XXe siècle. Si sa leçon présente comme il se doit des recherches avec ses équipes, elle aborde aussi la question du financement des travaux. Dans une interview récente, Alain Prochian, qui est aussi l'administrateur du Collège de France, rappelle « Les innovations de rupture naissent de recherches souvent fondamentales. La recherche publique est donc un moteur essentiel. Sans elle, moins de connaissances, moins de brevets, moins de start-up, moins de compétitivité économique. La recherche fondamentale demande du temps et de la liberté. » Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour sa leçon inaugurale « Géométrie du vivant » le 4 octobre 2007.
En 1984, dans le laboratoire de Jacques Glowinski, nous avons fait une observation surprenante, à vrai dire, et qui est la suivante. Si vous prenez un tapis d'astrocytes, c'est-à-dire des cellules non nerveuses, et que vous faites pousser un neurone sur ce tapis, un neurone pris dans la même localisation que ces astrocytes, vous allez avoir une cellule qui a à la fois des dendrites et des axones. Mais si vous mettez ce même neurone sur des astrocytes d'une autre région, alors vous aurez un axone, mais vous n'aurez jamais de dendrite. À vrai dire, nous aurions dû nous intéresser à cette hétérogénéité des astrocytes ainsi démontrée par cette expérience. Mais, auditeurs, comme beaucoup, des cours de François Jacob, je connaissais l'existence de mutations associant à un algorithme génétique à une position à une forme, celle d'un organe. Chez ces mutants, Les cellules embryonnaires interprètent mal leur position et engagent des programmes morphogénétiques aberrants. Chez la mouche, des pattes viennent remplacer les antennes ou des ailes, les yeux, par exemple. 300 plus tard, et un séjour new-yorkais plus loin, je décide d'étudier le rôle des homéogènes dans le codage de la forme des neurones. Ces gènes encodent des facteurs de transcription, des homéoprotéines. Et ces homéoprotéines se fixent à l'ADN par une petite structure qu'on appelle l'homéodomaine. Afin d'étudier le rôle de ce facteur de transcription dans la forme des neurones, nous décidons d'injecter un homéodomaine afin de déplacer la protéine de ces sites. Et nous observons effectivement une modification de la forme neuronale. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, nous avons fait un contrôle qui consistait à mettre l'homéodomaine à l'extérieur. Et c'est ainsi que nous avons vu la cellule continuer de changer de forme. Normalement, on aurait dû s'arrêter là. Mais nous avons marqué la cellule, l'homéodomaine, et c'est ainsi que nous l'avons vu pénétrer dans les cellules, et plus tard que nous avons pu voir les homéoprotéines elles-mêmes pénétrer dans les cellules. Merci Antoine Trider d'avoir, tard le soir, avec la complicité vaguement inquiète d'Henri Korn, mis ton microscope confocal pasteurien, tout neuf, à notre disposition et observé avec moi les poissons zèbres nager dans l'homéodomaine fluorescent. La science est aussi une histoire d'amitié. Le concept né de ces premières expériences et dont l'étude nous tient occupés depuis 1988 est simple. Deux cellules échangeant des facteurs de transcription de cette famille se communiquent par là une information de position et y répondent par un changement dans l'expression de différents effecteurs de la morphogénèse. C'est à la suite de cet échange d'informations de type positionnel que les cellules vont décider si elles vont s'associer, par exemple, ou au contraire, se séparer. C'est-à-dire que la décision morphologique, ou la décision d'adhésion ou de déadhésion, suit l'échange d'informations positionnelles. Par conséquent, dans ce domaine, ou dans ce schéma, nous pouvons considérer que les homéoprotéines sont certes des facteurs de transcription, agissant dans le noyau, mais aussi d'authentiques morphogènes, des protéines messagères, capable de passer dans le milieu extracellulaire, de pénétrer dans les cellules avoisinantes et d'en modifier nombre de caractères, dont la forme. Cette idée prenait plusieurs dogmes à contre-pied. Le premier d'entre eux est que les facteurs de transcription travaillent dans le noyau, ne sortent pas des cellules, n'y entrent pas davantage. Ils ne sont pas équipés pour cela. Le second est que les membranes sont des barrières imperméables aux agents hydrophiles, qu'il existe des mécanismes physiologiques qui déstabilisent des membranes au point de les rendre perméables à des protéines de haut poids moléculaire était inconcevable. Enfin, les homéogènes sont des régulateurs de la forme des organes, pas de celle des cellules. Or, notre observation impliquait que les mêmes gènes, donc probablement des mécanismes similaires ou proches, agissent aux deux niveaux, cellulaires et pluricellulaires, de la morphogenèse. Ces objections ont fait long feu. Nous avons, les équipes d'Alain Joliot et la mienne, démontré la sécrétion et l'internalisation de ces facteurs, identifié les séquences responsables et avancé dans la compréhension des mécanismes impliqués, au point que le domaine des peptides vecteurs, capables de traverser les membranes, est ouvert en collaboration étroite avec l'équipe de Gérard Chassin, un ami et un chimiste, est aujourd'hui florissant. Parallèlement, le mythe des membranes imperméables a perdu de sa force et cela ne choque plus guère de les savoir instables. Enfin, pour ce qui est des homéogènes régulateurs de la forme cellulaire, qui a même conscience que cette question put un jour faire débat. En revanche, l'idée qu'un facteur de transcription puisse être un morphogène ou, plus largement, un facteur de communication intercellulaire peut, parfois encore, susciter des interrogations. Soyons nets, même si le travail est loin d'être achevé, la participation de ce mode de signalisation à des étapes cruciales du développement, est une hypothèse solide, reposant sur des faits expérimentaux bien assurés. Parmi ces étapes, toutes étudiées dans le système visuel, je citerai la formation des territoires au sein du neuroépithélium, le guidage des axones au cours de l'établissement des réseaux neuronaux et la régulation de la période critique par la vision binoculaire. J'ajouterai que pour nombre d'entre elles, les homéoprotéines ne sont pas seulement des régulateurs de la transcription des gènes en messagers, mais aussi de la traduction des messagers en protéines, et que cette dernière propriété joue un rôle important dans leur activité de transduction du signal. Pour revenir brièvement sur la façon dont l'hypothèse fut perçue, je tiens à rappeler que, dès l'origine, plusieurs collègues l'ont trouvée assez intéressante pour lui donner sa chance. Alors merci, entre autres, à Spiro Sartavanis, Denis Duboul, Anthony Durston, Walter Gehring, Christopher Henderson, Eric Kandel, Daniel Louvard et Pascal Rakish. Chacun à leur façon, ils nous ont permis de poursuivre, non par amitié, elle est parfois venue plus tard, ni par adhésion, mais au nom d'une certaine conception de la science. Avec le recul, cependant, je dois admettre que faute d'une formation solide en biologie du développement, nous étions naïvement enthousiastes, en partie aveugles au caractère provocateur de nos propositions. Cette innocence fut une chance, même si ce faisant, nous avons jeté le trouble dans l'esprit d'interlocuteurs méfiants vis-à-vis de la nouveauté de l'hypothèse. Attitude partagée par la majorité des éditeurs des grands journaux qui font, ou plutôt suivent, l'opinion. Cela aussi, je les remercie. En nous obligeant à multiplier les preuves, ils ont contribué à leur façon au développement de ce projet. Ils nous ont aussi ouvert les yeux sur la structure sociale de la cité scientifique. Alors, pourquoi s'être accroché et comment ? Dernier point est important, car une recherche se conduit dans le réel, nécessite un soutien institutionnel et financier. Nous avons donc jalousement veillé à notre indépendance administrative et financière. Je préférais ne pas avoir, pour tenir le cap, à me placer sous la protection de princes qui auraient pu nous lâcher en route pour notre bien, sans aucun doute. Et puis, nous nous sommes mis en quête de financement. Mais, pour le nerf de la guerre, comment financer, dès 1990, un projet qui ne le fut ouvertement, en tant que tel, qu'à partir de 2002. Entre 1990 et 2001, nous avons développé des programmes sur les peptides pénétrants, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la libération vésiculaire, la polarité neuronale, la matrice extracellulaire, des sujets passionnants qui ont mobilisé 90% de notre énergie et ont assuré la carrière de la presque totalité des étudiants, post-doctorants et chercheurs venus travailler avec moi. C'est donc en détournant de leur but affiché une petite partie de nos financements qu'avec quelques collègues, au premier rang desquels Alain Joliot, Brigitte Le Saffre, Alain Tremblot et Michel Volovitch, tous établis et hors de danger, nous avons avancé dans l'examen de notre hypothèse. Les autres membres de l'équipe, jusqu'en 2002, ont participé indirectement, jamais de front, à ce projet. Depuis 2002, tout le monde s'y est mis, avec l'aide de collègues étrangers, William Harris, Takao Hensch, Christine Holt, Andrea Wiesenmann, Wolfgang Wurst et leurs collaborateurs. À tous, je veux exprimer ma gratitude, sans oublier Isabelle Brunet, une étudiante courageuse qui a mené dans des circonstances souvent difficiles une série d'expériences décisives. Vient le tour du pourquoi. Pourquoi avoir insisté au-delà du raisonnable ? Pourquoi s'être ainsi embarqué dans la poursuite d'une idée chimérique aux yeux de beaucoup ? Même si nous n'étions pas certains d'être dans le vrai, il fallait bien une part de certitude, une conviction minimale. D'où venait cette conviction ? À vrai dire, je n'en sais rien. Pour une part, sans doute, elle se fondait sur l'analyse rationnelle, mais pour une part seulement. Il faut donc avancer ici le mot d'intuition, en assumant sa composante irrationnelle. Quitte à bousculer une conception très répandue chez les biologistes, il me semble que l'accès à la connaissance se fait souvent dans cette pénombre, où l'intuition le dispute à la pure logique, ou plutôt lui ouvre la voie, car la logique doit avoir le dernier mot, en science en tout cas. Pour ce qui est de l'analyse rationnelle, j'ai essayé d'en reconstituer les éléments. D'abord, les faits sont les faits. On n'a pas le droit de les ignorer dès lors qu'on en est assuré. Conseillé par Walter Gehring, nous avions multiplié les contrôles en produisant des homéodomaines mutés. Il était apparu que certaines mutations bloquaient l'internalisation de l'homéodomaine et d'autres pas. Puis que parmi les variants internalisés, seuls ceux qui se fixaient à l'ADN avaient une activité morphogénétique. Il ne s'agissait donc pas d'un artefact vulgaire. Dans ces conditions, en dépit des risques, ne pas poursuivre eût été à l'encontre d'une idée de la science partagée, et ce fut décisif par Michel Volovitch et Alain Joliot. Engagement idéologique chez le premier, tradition familiale chez le second. Pour nous trois, il eût été immoral d'en rester là. La deuxième incitation à poursuivre était d'ordre théorique. Il me semblait que ce mécanisme d'échange direct d'informations de position s'insérait logiquement dans la convergence entre génétique, biologie du développement et évolutionnisme qui s'opérait sous nos yeux grâce à la découverte des gènes de développement. Pour l'expliquer, il faut rappeler ici le contexte des années 80. Biologie cellulaire tout d'abord. En embryologie, les biologistes cellulaires de l'époque se réfèrent encore au paradigme de la cybernétique cellulaire. La cellule est un lieu fermé, ou presque, et la théorie cellulaire est pour l'essentiel une théorie de l'information, née de la notion d'entropie, donc du deuxième principe de la thermodynamique. L'activité génétique, qu'en relisent Léon Briouin, Jacques Monod et François Jacob aussi, est un démon de Maxwell qui maintient l'ordre dans une cellule n'échangeant pas, ou si peu qu'on peut dire pas, avec l'extérieur. C'est pourquoi le développement est essentiellement pensé sous l'angle de la différenciation cellulaire. Comment les cellules se différencient-elles en neurones, en fibroblastes ou tout autre type cellulaire, en jouant sur la panoplie des gènes exprimés. Mais la question de l'assemblage de ces cellules, ici en pied et là en main, ici en patte et là en antenne, selon un véritable code des interactions cellulaires, n'est presque jamais abordée à cette époque par les spécialistes de la cellule. Cette question de la forme des organes, par contre, en revanche, est posée à trois niveaux. Le premier, génétique, s'appuie sur ces mutations homéotiques anciennement observées, comme la transformation des antennes en pattes ou des yeux en ailes chez la mouche. Ces mutations ont mené Edward Lewis à proposer un modèle de codage positionnel des appendices chez les arthropodes et conduit à la découverte chez tous les animaux, invertébrés ou vertébrés, des gènes homéotiques qui marquent la position d'une cellule et jouent un rôle essentiel dans le codage des interactions cellulaires, la différenciation et la morphogenèse. Les premières manipulations génétiques ont alors permis de brosser à grands traits le rôle de ces gènes chez les invertébrés d'abord, puis, très rapidement, chez les vertébrés. Mais les mécanismes en cause restaient ignorés, secondaires par rapport à l'observation des modifications anatomiques nées des mutations dirigées. Entrer dans le détail cellulaire et moléculaire n'était pas, sauf exception, sur l'agenda des généticiens. En revanche, ce qui est immédiatement perçu est que la connaissance des gènes qui établissent et transmettent à travers les générations le plan de l'organisme ouvre à des spéculations novatrices sur l'évolution. Les modifications de la structure de ces gènes, des variations dans la durée ou les sites de leur expression, peuvent en effet donner naissance à des formes animales et végétales nouvelles. Le lien entre développement et évolution, pressenti par de nombreux naturalistes et embryologistes, au premier rang desquels Ernst Haeckel, trouvait là une base matérielle, donc, et c'est très important, un terrain d'expérimentation.
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale d'Alain Prochiante, Géométrie du vivant, en 2007 au Collège de France.
L'embryologie expérimentale représente la deuxième approche. Née au XIXe siècle, avant la génétique, et poursuivie dans sa presque parfaite ignorance, elle permet de comprendre le rôle de l'environnement tissulaire et moléculaire dans la différenciation cellulaire et la morphogenèse. Elle met aussi en place plusieurs concepts séminaux, entre autres ceux de système d'induction, de champ et de gradient morphogénétique. De grands noms, comme celui de Hans Spemann, ou Victor Hamburger, Rita Levi-Montalcini, évidemment, marque l'histoire de cette discipline. Sa fusion tardive avec la génétique du développement va vite s'avérer d'une importance décisive au bénéfice des deux partenaires. En France, les travaux de Nicole Ledouarin illustrent au plus haut niveau cette démarche. Enfin, il y a cette troisième voie, mathématique, qui, sortie d'un purgatoire prolongé, suscite de nouveau l'intérêt des biologistes. On oublie d'ailleurs souvent qu'elle a contribué, à travers la théorisation des concepts de champ et de gradient morphogénétique, à nourrir la réflexion de plusieurs générations d'embryologistes. Je m'arrêterai principalement sur Alan Turing et Louise Wolpert, laissant temporairement de côté nombre de théoriciens importants, en particulier Conrad Hall Waddington, dont les idées de canalisation, évolvabilité ou robustesse reviennent aujourd'hui en force. Alan Turing, célèbre comme mathématicien et philosophe, aussi pour le roman de sa vie, a légué à l'imaginaire collectif le principe du cerveau ordinateur, au rôle important et positif, mais aussi problématique, dès lors que ce modèle s'est transformé en représentation dogmatique d'un cerveau machine logique. On sait le temps pris pour que s'imposent pour le système nerveux les idées de renouvellement cellulaire ou de plasticité morphologique. La conception d'un cerveau ordinateur est évidemment séduisante dans la perspective de la maîtrise de ce qui se passe là-haut. Peine perdue. Déjà, les cellules ont cessé d'être des forteresses thermodynamiques et voici maintenant que cette chose, à l'avant-poste de notre corps, est vivante, bouge et respire. Pire, ce dangereux organe pourrait avoir une pensée autonome, échappant en partie à ma conscience, savoir avant moi et mieux que moi ce que je pense ou désire. Angoisse sous un crâne. Ce n'est pas machine qui veut. Pourtant, la responsabilité de cette conception fixiste revient plus à ses épigones qu'à Turing lui-même, qui, dans Les machines pensent-elles, pose l'hypothèse du cerveau en développement, celui d'un enfant, comme modèle des machines à venir, avec la conséquence d'un intérêt pour la morphogenèse biologique qui nous vaudra en 1952, 2 ans avant son suicide, la fameuse pomme, un article resté célèbre, Les bases chimiques de la morphogenèse. C'est dans cet article que Turing définit les morphogènes, le premier, comme des évocateurs de formes, terme assez vague, emprunté à Waddington. Le problème de Turing est de créer des patterns au sens des taches du léopard, des frontières donc, avec deux morphogènes, A et B, exprimés au même niveau stochastique dans le champ morphogénétique. Pour cela, il décrète les conditions suivantes. A et B sont deux morphogènes qui s'auto-activent et qui s'entre-répriment. Vous voyez bien que dans un système comme celui-là, il suffit qu'un différentiel de concentration important ou même pas très important apparaisse, un seuil de différence entre les deux morphogènes, pour que l'un gagne entièrement sur l'autre. The winner takes all, disent les anglo-saxons. Ce différentiel de concentration peut venir évidemment d'un différentiel de diffusion, c'est ainsi en tout cas que Turing le propose. Et c'est comme ça qu'on peut faire des territoires purement A ou purement B à partir d'un champ de départ où les deux morphogènes sont exprimés à peu près au même niveau, évidemment avec des fluctuations. Turing fait alors 2 remarques. La première est qu'il serait idéal que les gènes eux-mêmes puissent diffuser. Mais on sait bien que les gènes ne diffusent pas. La deuxième est que la diffusion lui impose, sauf à compliquer le problème, de supprimer les membranes cellulaires, ce qu'il fait. Quand j'ai lu cet article, j'ai été frappé par les correspondances entre son modèle et notre hypothèse. En effet, les propriétés passe-muraille des homéoprotéines effacent, pour ainsi dire, les membranes. Par ailleurs, les homéoprotéines exprimées de chaque côté d'un bord dans le neuroépithélium, au moment où s'établissent les frontières des différents territoires et aires cérébrales, sont le plus souvent, sinon toujours, auto-activatrices et inhibitrices réciproques. Quant aux gènes, évidemment, ils ne diffusent pas. Mais si la diffusion du produit active la transcription du gène, alors tout se passe comme si le gène diffusait. J'étais d'autant plus frappé de cette convergence qu'on savait depuis longtemps, à la suite des travaux de Christine Nuslein-Volart, que l'homéoprotéine bicoïde, exprimée en gradient dans l'embryon de drosophile, est un morphogène régulateur de la transcription, et ça son importance, de la traduction. Mais cela ne posait pas de problème, puisque dans l'embryon, au stade syncytial, les noyaux ne sont pas séparés par des membranes. Il n'y a pas de membrane. Notre hypothèse pouvait donc être reformulée en la proposition suivante. Parce que les homéoprotéines traversent les membranes, le neuroépithélium est un syncytium fonctionnel pour les homéoprotéines. Louise Wolpert, pour sa part, s'est rendue célèbre en 1969 par un article publié dans le Journal of Theoretical Biology, Le problème du drapeau français. Considérons un champ morphogénétique dans lequel on va placer des cellules et considérons un gradient de morphogène qui s'établit ainsi grâce à une source et à un puits. Si on décrète qu'il y a des effets seuil, on peut dire que dans toute la première région, par exemple, les cellules vont adopter une couleur. La deuxième région, entre ce seuil-ci et celui-là, une deuxième couleur, blanc. Et dans cette dernière région, une troisième couleur, rouge. Si la couleur de la première région était bleue, on a effectivement un drapeau français. C'est donc ce problème. Mais ce problème rencontre quelques difficultés, parce que dans le système nerveux, et ailleurs aussi sans doute, la diffusion est très limitée. Je pense que nous avons tenté de répondre à cette difficulté à la fois par des modèles expérimentaux et par des équations qui ont été dessinées, ou plutôt écrites, par le mathématicien David Lockman. En effet, le passage de la protéine, s'il est suivi de l'induction de sa propre synthèse dans la cellule receveuse, permet de proche en proche de marquer un territoire. La protéine est infectieuse. Et l'infection va éventuellement être bloqué par une autre protéine qui vient dans l'autre sens, qui est un morphogène qui inhibe l'activation de ce premier morphogène, A et B. Souvenez-vous du principe de Turing. Il suffit alors que l'efficacité d'infection diminue avec le temps pour créer un gradient morphogénétique le long du neuroépithélium, avec un alpha inférieur à 1. Le facteur de transcription, qui est aussi un morphogène, est exprimé dans la cellule. Il est alors exporté à la surface et le gradient qu'on peut voir dans le noyau est conservé également à la surface car les protéines ne peuvent pas diffuser, bloquées qu'elles sont par des sucres complexes de la matrice extracellulaire. Donc dans notre modèle, le gradient peut se former, il peut se maintenir, non pas parce que la protéine diffuse, mais justement parce qu'elle ne diffuse pas. Car si elle diffusait, il n'y aurait plus de gradient. Et si maintenant vous imaginez une cellule ou un cône de croissance qui se promène à la surface de ce neuroépithélium, eh bien, au fur et à mesure qu'il progresse, il peut lire sa position en absorbant le morphogène présent à la surface et en y répondant, par exemple, par une régulation de la traduction dans le cône de croissance, ainsi que cela fut démontré par Isabelle et ses collègues à Cambridge et dans mon laboratoire. Je voudrais maintenant discuter l'insertion de notre hypothèse dans ce paysage des années 1980. Le passage intercellulaire des homéoprotéines permet pour deux cellules de comparer leur position. Ce transfert d'informations positionnelles par des protéines qui sont à la fois des morphogènes au sens de Turing et des facteurs de transcription régulateurs des programmes de différenciation, de développement, fournit une réponse possible à la question du lien entre position cellulaire et engagement d'un programme de différenciation. Cette réponse diffère de celle proposée jusqu'ici en ce que c'est la même famille de molécules qui joue le rôle de morphogène et d'exécuteur transcriptionnel et traductionnel de la morphogénèse. Il s'agit de ce fait d'un mécanisme extrêmement parcimonieux, même si cette première reconnaissance est suivie du recrutement d'autres signaux régulant la robustesse du processus. Rappelons ici que la robustesse est un caractère essentiel du développement. Ce par quoi d'un œuf de poulet sort presque toujours un poulet. Mais qu'une trop grande robustesse peut aussi nuire à l'évaluabilité, voire à la plasticité physiologique de la transduction d'un signal, d'où l'importance de l'ensemble des systèmes régulateurs. Dans une perspective évolutive, ce mécanisme a pu précéder les modes classiques de signalisation. En effet, les homéoprotéines existent chez les plantes et chez les animaux. Deux règnent qui utilisent des systèmes très divergents de signalisation. C'est en suivant cette idée qu'Alain Joliot et ses collègues ont démontré que les mécanismes de passage intercellulaire des homéoprotéines sont conservés entre les deux règnes de la nature. Cette dimension évolutive se retrouve dans le fait que cette fonction morphogénétique directe des homéoprotéines suggère des voies originales de réflexion sur l'évolution des champs morphogénétiques. Elle constitue aussi un outil pratique en évolution expérimentale. dois-je insister sur la révolution que constitue l'intrusion récente de l'évolution dans le champ des sciences expérimentales. Mais il nous faut maintenant monter d'un cran pour proposer qu'à travers cette fusion entre génétique et développement et évolution, provoquée par la découverte de ces gènes de développement, s'affirme aujourd'hui une théorie du vivant, indépendante des théories importées d'autres disciplines, en particulier de cette théorie de l'information qui, en passant par la cybernétique, avait structuré les grandes avancées de la biologie dans l'immédiate après-guerre. Et cette nouveauté est un accomplissement, celui de la prédiction bernardienne, d'une zoologie scientifique capable de produire scientifiquement des formes biologiques nouvelles. Je cite, « comme le chimiste produit des corps qui sont en puissance, mais qui n'existent pas dans l'état naturel des choses. » Cette possibilité de fabriquer des objets technologiques biologiques via les manipulations raisonnées des génomes est d'une importance majeure. En effet, nous voyons à travers ces outils nouveaux, nés de concepts propres à la biologie, la convergence dans les faits, des faits qui bougent dans les animaleries ou croisent dans les fermenteurs et dans les champs, des trois disciplines, reproduction, développement et évolution des formes organiques, qui sont au cœur de la spécificité du vivant, sans oublier la physiologie, puisque la génétique du développement, d'un développement poursuivi chez l'adulte, l'embryogenèse silencieuse de Claude Bernard, renouvelle le concept physiologique de milieu intérieur et de régulation. Il est de fait apparu, ces dernières années, grâce notamment à la génomique fonctionnelle, que les gènes travaillent par réseau et que les nombreux éléments de régulation, l'essentiel du génome pour nombre d'espèces, maintiennent cette activité multigénique dans des zones compatibles avec la physiologie. Vision contemporaine du milieu intérieur, donc, de la contrainte imposée par ce milieu pour maintenir les systèmes vivants dans des zones étroites, les canaliser, tant du point de vue de leur physiologie que de celui de leur développement ou de leur évolution. On ne peut pas créer n'importe quelle forme organique, ni laisser dériver ces formes organiques vers n'importe quelle absurdité physiologique. C'est le rôle des réseaux génétiques, au sein desquels les gènes de développement jouent un rôle important, même chez l'adulte, que de veiller à cette régulation. Revenons alors à notre hypothèse de protéines messagères et réalisons la dimension neurobiologique et endocrinienne de leur diffusion. Bref, le réseau génétique à activité intercellulaire, intracellulaire, pourrait se déplacer par le mécanisme que nous proposons vers un niveau supracellulaire engageant l'unité de l'organisme. Pour y revenir une dernière fois, les propriétés de signalisation si surprenantes de ces facteurs de transcription doivent être interprétées dans le cadre de cette cristallisation théorique, ce qui implique que par-delà les zones d'ombre qui subsistent, elles jouent leur rôle dans ces modalités pratiques. Par exemple, en proposant un mécanisme plausible pour la mise en place et l'évolution des territoires cérébraux, compatible avec les données expérimentales et les théories du développement, ou encore en enrichissant toujours de façon pratique la panoplie des mécanismes d'individuation épigénétique, en particulier au cours de la formation des circuits neuronaux et de la définition de la période critique, comme nous l'avons pu montrer avec les collègues allemands et anglais et japonais déjà cités. On pourra trouver cette proposition osée, ou pire, immodeste. Mais je ne vois pas au nom de quel puritanisme, teinté d'ouvriérisme chic sur le mode « je ne suis pas un intellectuel », les biologistes devraient s'interdire de contribuer à l'évolution théorique de leur discipline, se contentant d'utiliser les progrès technologiques pour se livrer à des observations toujours plus précises ou plus colorées, dont la beauté emporte l'adhésion et donne l'illusion de comprendre. Comme chacun, je suis friand de ces nouveautés. Il me semble contraire à l'expérience qu'on puisse voir autre chose que ce qui peut se penser théoriquement. Bref, avant de montrer, il faut souvent avoir déjà démontré. Et c'est quand ce qu'on voit ne colle pas que l'affaire devient vraiment intéressante. Encore faut-il savoir ne pas rejeter ce qui n'est pas attendu. S'il y a une part de vérité dans l'adage « voir, c'est comprendre », il n'en reste pas moins qu'écarquiller n'est pas voir. Il est vrai que l'idée que je me fais d'une théorie en biologie est assez éloignée de cette biologie théorique mise en équation de phénomènes observés ou photographiés. J'en ai une conception plus simple, plus concrète. Non pas cette description mathématique de ce qui est vu, mais un modèle évolutif un outil bricolé, avec des mathématiques peut-être, mais aussi de la langue naturelle, et qui sert avant tout à comprendre ce qu'on ne voit pas, à deviner sous le visible l'invisible du vivant, sa logique sous-jacente, dont rien ne dit d'ailleurs qu'elle relève de la logique mathématique. D'ailleurs, une mathématique du vivant, elle reste à inventer. Se situerait plus probablement, c'est une intuition, du côté de la géométrie. Précisons immédiatement que l'existence d'une biologie indépendante, maîtresse de sa théorie, est capable de produire des objets techniques qui relèvent de cette théorie, pour une grande part les organismes génétiquement modifiés, ne signifie pas que les interactions avec les autres disciplines soient obsolètes, au niveau théorique ou pratique, suivi par exemple de l'instrumentation. Mais ces interactions doivent être menées pour le physiologiste du point de vue de la physiologie. Par cette indépendance ainsi affirmée, la biologie n'a aucune raison de se penser comme un champ d'application de concepts opérationnels dans d'autres champs disciplinaires. A contrario, sûre d'elle-même, elle n'a pas besoin de se donner des airs de méta-théorie hégémonique, encline à légiférer en dehors de son domaine de validité, tout particulièrement dans le champ des sciences humaines. Levons une possible ambiguïté. Je suis résolument du côté d'une naturalisation de l'esprit, comprise comme l'étude des mécanismes cérébraux, aussi de la façon dont ils se développent et dont ils ont évolué, nécessaire à l'exercice d'une spécificité humaine qui se traduit dans nos organisations sociales et nos pratiques culturelles. Si je me concentre ici sur Sapiens, ce n'est pas parce que nous ne serions pas des animaux, mais parce que les modifications qui se sont produites dans le genre homo nous ont, pour ainsi dire, comme sortis de la nature. J'en prendrai pour preuve le rapport exceptionnellement élevé chez Sapiens entre le volume du cerveau et sa masse corporelle. Par rapport aux chimpanzés, nous avons 900 cm3 de trop. Sur 1400, ce n'est pas rien. Et la taille n'est pas tout. Les frontières entre territoires se sont déplacées, dont celle du langage. Certes, nous avons 98% de proximité génétique avec les chimpanzés, 80% avec la souris. Mais il ne s'agit là que des séquences codantes, probablement moins de 5% du génome, et non des séquences régulatrices qui déterminent le lieu et la durée de l'expression des gènes, de variables évidemment décisives quand il s'agit d'évolution morphologique ou psychologique. On comprendra donc que je prenne ici la liberté d'oublier les autres animaux, y compris les chimpanzés, même si je n'ai aucune forme de mépris pour ces lointains cousins et leurs pratiques culturelles, nettoyage des pommes de terre et brindilles à termites. C'est un début.
Le Collège de France et France Culture vous présente le neurobiologiste Alain Prochian, Géométrie du vivant.
Pour en revenir donc à l'humain et à la place de la biologie dans son étude, ce n'est pas parce que nous partageons cette étude avec d'autres communautés que l'identité de l'objet humain doit entraîner une identité des théories, voire le passage de théories et champs disciplinaires indépendants sous la férule d'une discipline, fut-elle la neurobiologie. Car un objet scientifique n'est pas seulement l'objet matériel, mais l'objet matériel est la théorie qui permet de le penser. Ce n'est pas parce que nous sommes faits d'atomes que le biologiste est ipso facto un physicien, ou un physicien un biologiste. De même, un biologiste qui s'intéresse au cerveau humain n'est pas métamorphosé de droit en anthropologue ou en philosophe. Il faudrait pour cela, c'est possible, qu'il se soit approprié le corpus théorique de ces disciplines. Ce qui ne signifie pas que les effets des connaissances nouvelles ne résonnent pas par-delà les frontières disciplinaires, au point de parfois les faire bouger. Les théories ne sont pas des dogmes, elles sont évolutives. Il est inévitable que les termes si souvent utilisés, adjoignant le préfixe « neuro » à un suffixe variable, philosophie, économie, éthique, esthétique, j'en passe, laissent parfois supposer que ces disciplines se retrouvent, par le fait du progrès scientifique et technique, comme on disait en URSS, en position de domaine d'application des neurosciences. Si de nombreux philosophes s'efforcent de rendre en compte ce que nous savons, de façon encore très incomplète, il faut bien le dire, du fonctionnement cérébral, d'autres, et pas forcément des moindres, s'interrogent sur les catégories de la pensée, indépendamment de toute référence organique. Et on pourrait tenir ce raisonnement pour toutes les disciplines, les plus prétendues molles, aux plus soi-disant dures, mathématiques comprises. Je ne vois pas au nom de quel matérialisme naïf on irait leur disputer ce droit. C'est pourquoi il ne fait aucun doute que quand un grand physiologiste s'appuie sur ses travaux pour déclarer que Descartes avait tort et Spinoza a raison, son intention est avant tout humoristique. Mais, direz-vous, un neurobiologiste, fût-il plus morphogénéticien que neurosavant, ne peut pas échapper à cette question du rapport entre l'esprit et son substrat, ni s'en sortir avec une pirouette. J'en conviens. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut rester très attentif au caractère éminemment polysémique du mot « pensée ». Si un biologiste veut s'exprimer de plein droit sur la pensée, alors il faut qu'il le fasse à partir de sa propre discipline. Et s'il est matérialiste, sans recours à une position dualiste. Bref, il nous faut une définition biologique de la pensée qui se distingue de la question de sa localisation, faute de quoi le dualisme, sorti par la fenêtre, reviendrait par la porte, la grande, éventuellement. Je vais donc risquer devant vous une telle définition. La pensée est le rapport adaptatif entre le vivant et son milieu. Et dans le terme vivant, j'inclus les individus et les espèces. Considérons un bref instant les conséquences d'une telle définition biologique. La première est qu'un rapport n'est pas une substance. Par là, il n'a pas de siège. Du coup, la belle formule de Cabanis, le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile, utile en son temps, est mise hors jeu en tant qu'étendard matérialiste. Une deuxième conséquence est que le terme de pensée, dans sa définition biologique, s'applique à tous les organismes et à toutes les espèces. Et puisqu'il s'agit d'évolution, la sélection s'exercera à deux niveaux, celui de l'individu, comme Charles Darwin nous l'a appris, et au niveau de l'espèce, comme le propose Stephen Jay Gould dans la structure de la théorie de l'évolution. On pourra alors dire que les bactéries, les plantes, comme tous les êtres vivants qui se reproduisent, se développent et évoluent, pensent. Certes, ce rapport est plus ou moins riche, et nul ne peut douter qu'il est plus riche chez Sapiens, en raison de son cerveau exceptionnel, que chez toute autre espèce. Mais la pensée ainsi définie n'a plus besoin d'un dieu, pas plus besoin d'un dieu que d'une structure où s'incarner, cerveau ou génome. Ni transcendance, ni immanence. On croit apercevoir l'imposante silhouette emmuraillée du grand philosophe de la nature, celui qui osa ni dieu ni nature, véritable précipice au milieu du salon, celui des philosophes des Lumières, pour reprendre l'expression d'Annie Lebrun. Thème bernardien, s'il en fut, que cette défense de la biologie contre les incursions externes. L'incursion de la physique, d'abord, que le grand physiologiste récuse en inventant le milieu intérieur, l'équivalent en physiologie de l'éther des physiciens post-newtoniens, quand Guilhem nous l'a appris. La vie n'est plus l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort, conception de Bichat, purement thermodynamicienne, héritage de Carnot et de Lavoisier, mais un double mouvement de création et de destruction de formes organiques, une incessante création de formes, pour reprendre la formule de Darwin. L'incursion philosophique, ensuite, qu'on relise l'introduction à la médecine expérimentale pour y retrouver le refus constant de se laisser entraîner dans la classification conscienne des disciplines scientifiques. La biologie, mais au-delà aucune discipline scientifique, ne peut accepter que des philosophies, sous prétexte qu'elles se déclarent scientifiques, c'est leur affaire, viennent faire la police chez elles. Il y a dans ce propos nulle position hostile à quelque discipline que ce soit, ni à l'interdisciplinarité. J'ai évoqué plus haut les liens étroits que mon équipe a tissés avec des chimistes, l'équipe de Gérard Chassin, des mathématiciens, l'équipe d'Avi Lockman ou des physiciens de la matière molle, à travers des collaborations avec des équipes du département de physique de l'École normale supérieure, celles de David Ben-Simon et Vincent Croquette, Maxime Dahan ou Éric Thérèse. En ce qui nous concerne, l'aide conceptuelle et technique qui nous a été ainsi apportée a servi des questions portées par la physiologie. Il en est allé symétriquement pour nos collègues qui ont le plus souvent utilisé nos modèles pour l'étude de questions touchant leur propre discipline. Ça ne veut pas dire que les bords n'ont pas bougé ou frémi. Les sciences sont vivantes et que chacun y a aussi trouvé son miel en son domaine, condition d'une collaboration réussie. Nous sommes là, évidemment, à milieu de ces grandes institutions prétendument pluridisciplinaires où chaque discipline est organisée en forteresse et comme souci principal de savoir ce qui tombe dans l'escarcelle du voisin, une solidarité proche de celle des poireaux dans un champ, à la différence près que les poireaux n'ont pas l'habitude de s'entre-dévorer. Au-delà de ces collaborations, dont le contenu principal est donc le plus souvent d'ordre technique, même si les théories peuvent s'en trouver modifiées, il existe un autre espace où les disciplines sont amenées à se croiser. Cet espace est celui de la rêverie. Je crois avoir remarqué que les conditions pratiques de la recherche scientifique laissent peu de temps pour des activités autres que la production rationnelle de connaissances, nouvelles si possible. Lire les grands anciens, j'en ai cité quelques-uns, s'aventurer sur le terrain de l'histoire des sciences, de la philosophie, voire de la littérature, collaborer avec un faiseur de théâtre, comme Jean-François Perret, est souvent perçu comme du temps pris au sérieux de la science. Pire, cela peut apparaître comme une marque de faiblesse ou de superficialité. Une façon fantaisiste de continuer d'exister quand la science vient à se dérober. On se trouve alors rapidement rangé dans la catégorie du savant médiatique, variante contemporaine du médecin cultivé, nœud papillon et dîner en ville. Je veux ici affirmer que ces manquements à l'image que la science aime à donner d'elle-même font partie, pour moi, de l'activité scientifique. J'ai risqué le terme de science nocturne. Je me suis adonné de longue date à ces pratiques nocturnes. De là, mon intérêt pour des auteurs scientifiques disparus, parfois depuis longtemps. Claude Bernard, par exemple, dont la chaire de médecine expérimentale, la plus prestigieuse pour un physiologiste, est aujourd'hui occupée par Pierre Corbol, notre administrateur. Ces lectures m'ont été d'une aide précieuse pour la compréhension des questions les plus pointues abordées par la biologie. Si les sciences, en effet, se définissent non seulement par leurs objets, mais aussi, je devrais dire peut-être surtout, par leurs théories, si ces théories, répétons-le, sont évolutives, il est aisé de comprendre que s'attarder sur les textes anciens ne peut que nous aider à éclairer nos recherches les plus avancées. Il ne s'agit donc pas d'effacer l'ancien par le nouveau, mais de poursuivre une conversation entre amis avec les chercheurs qui ont posé les questions et les ont faites évoluer. On manquait à le faire, en raison d'obstacles qu'il nous faut aussi comprendre, car ils sont parfois toujours présents. Pour puiser dans mon expérience personnelle, le concept de milieu intérieur, celui d'embryogenèse silencieuse, m'ont été d'un grand secours pour lier le développement à la physiologie ou à la pharmacologie. Si j'ai, il y a de cela plusieurs années, intitulé mon équipe développement et neuropharmacologie, l'italique du « et » soulignant le rapport dialectique entre ces deux domaines, ce n'est ni par caprice, ni par hasard. Accessoirement, mais est-ce accessoire? Cette fréquentation nous permet d'entrer dans l'intimité d'êtres humains et de saisir les difficultés auxquelles ils se sont heurtés, non sans effet, sur leur vie, au sens le plus prosaïque du terme. Qu'on relise ou lise la correspondance de Darwin, les lettres de Claude Bernard à Mme Rafalovitch, qu'on s'attarde sur les vies de Lamarck, Turing ou Galilée, comment rester insensible aux difficultés existentielles de ces très grands savants, à leurs interrogations, leur façon de nous faire connaître non pas des méthodes pour trouver, si on avait, ça se saurait, mais leurs interrogations sur le mode du « comment ai-je trouvé ?», voire du « ai-je trouvé ?». Bref, la fréquentation des maîtres, jusque dans leur intimité, non seulement nous remet à notre juste et modeste place, mais nous fait aussi saisir l'humanité de la science, la prévalence et l'importance du doute qui habite toute vie humaine, en premier lieu celle des scientifiques. Mais il peut arriver qu'on quitte véritablement le terrain de la science ou de l'histoire de la science et des savants pour se laisser aller à des approches plus littéraires, pour explorer un no man's land, cette zone où rien n'est encore joué et où des correspondances peuvent se faire jour entre différents champs de savoir ou de culture. C'est la définition même de ce que j'appelle littérature, cette zone chaotique où la pensée se cherche et invente, rêverie ou promenade, avec des mots. Quand la logique n'a pas encore, c'est à venir, était en position d'assurer son emprise à l'aide de faits objectifs et de théories structurées. C'est ici, littérature oblige, que je vais risquer une réflexion sur la place de la langue du sujet de la science dans l'invention scientifique. Qu'on se rassure, il ne s'agit certainement pas de défendre le français comme langue scientifique. Je suis parfaitement à l'aise avec le fait irréversible à un horizon pensable que l'anglais est la langue de la communication scientifique, qu'il s'agisse des congrès, des séminaires, des articles, ou des brevets. Et je n'ai aucun goût pour les pathétiques batailles d'arrière-garde menées ici ou là. En revanche, je suis convaincu que la langue qui est la sienne reste, quand il s'agit d'imaginer, de se déplacer dans cet espace chaotique dont j'ai parlé, un instrument poétique au sens littéral d'une valeur irremplaçable. Par langue qui est la sienne, je me réfère en tout premier à la langue maternelle, non sans envisager cependant qu'on puisse rendre sienne une langue à l'origine étrangère en la travaillant de l'intérieur, en se l'appropriant et la faisant évoluer de façon singulière, comme les rappeurs savent le faire. Il y a des banlieusards de la science, pas forcément moins inventifs que les habitants du centre-ville. Cela vaut évidemment pour les sciences comme la biologie, qui se pensent en langue naturelle. Peut-être moins pour celles qui ont la chance de créer à travers une langue universelle et scientifique, riche de sa propre valeur poétique, comme il me semble que c'est le cas pour les mathématiques, pour certaines branches de la physique. Mais les deux peuvent se mêler dans un idiome singulier qui n'appartient qu'à chacun. On voit bien que par cette revendication de bricolage idiosyncrasique d'une langue instrument de la création scientifique, ce que je tente de défendre est le droit à l'existence de sujet de la science. Ce faisant, j'ai conscience d'aller à l'encontre d'une conception de la science, discours de la vérité, dans lequel le savant serait une sorte de pitié contemporaine, paranoïaque au sens du président Schreber. Cette activité qui consiste à se forger un langage qui soit aussi un outil théorique, voire un bricolage théorique, on pourrait tout simplement l'appeler penser par soi-même. Remettre le sujet au centre, c'est admettre que ce cerveau vivant, victime d'accidents continus, parfois éprouvé par les excès ou les manques d'excès, ravagé par des chagrins ou obscurci par des joies, puisse fabriquer des théories qui permettent de construire des ponts qui tiennent et des fusées qui vont caresser la Lune ou Mars, ce qui n'exclut pas les accidents. Comment ne pas s'inquiéter du pouvoir étrange de cet objet qui, citons Turing, a la consistance du porridge tiède? On comprend mieux alors qu'en science aussi, il y ait des partisans de l'Immaculée Conception. Mais qu'on s'en afflige ou qu'on s'en réjouisse, et n'en déplaise à Sainte Thérèse, encore archidivin, le vivant n'est pas immaculé. Pour s'en convaincre, il suffit de plonger ses doigts dans un cerveau, voire plus simplement et plus agréablement d'aller faire un tour du côté de l'origine du monde. Cette nécessité de renvoyer à l'objet réel n'exclut pas une ligne de recherche fondée sur la fusion entre le vivant et la machine, qui, en faisant travailler l'interface entre deux logiques, permettra de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Plusieurs pistes peuvent ainsi être ouvertes par ces chimères. Certaines immédiatement pragmatiques, comme dans la lutte contre le handicap, d'autres éminemment futuristes, comme s'il s'agit de travailler à l'évolution à venir, à travers ce qui apparaît bien comme une forme de dénaturalisation partielle du vivant. En revanche, on peut toujours faire des expériences par la pensée. Et la façon la plus immédiate de procéder reste de décortiquer les articles scientifiques, y compris les siens. Décortiquer, cela signifie expliquer, replacer dans un contexte historique, voire réinterpréter les résultats et proposer des perspectives. Bref, chercher à dégager, à travers un travail concret, ce qui constitue le contexte d'une question scientifique. Cette année, nous nous livrerons à cet exercice à partir d'articles portant sur les morphogènes. Bref, nous ferons de la science à tâtons, en n'oubliant ni la composante diurne, ni la composante nocturne. Parallèlement à cet exercice qui appartient de plein droit à l'activité scientifique, une activité laissant sa place au doute et à la critique, l'autocritique aussi, il s'agira d'illustrer une certaine conception de la science propre à la faire entrer dans la culture. Il est en effet inouï, alors que la science est immiscée jusque dans les moindres interstices de nos sociétés, qu'elle continue d'osciller dans l'imaginaire entre Panthéon et savant fou, Marie Curie et le Frankenstein de Mary Shelley. Ne pas accepter pour la science un statut de parente pauvre sur le plan culturel des disciplines littéraires, combattre cette idée qu'il faut choisir entre science ou lettres, sous prétexte qu'il y aurait comme un destin marquant notre appartenance à un monde ou à un autre, c'est œuvrer à une réappropriation démocratique d'un objet ressenti pour beaucoup, par beaucoup, au mieux comme étranger, au pire comme menaçant. Une des facettes du travail mené depuis plus de 10 ans avec Jean-François Perret consiste justement en poétisant la science sur la scène théâtrale, en la désacralisant, à en faire un objet d'une culture qui parlerait aussi du monde contemporain. Cette collaboration avec un faiseur de théâtre, et pas des moindres, est la dernière forme chronologiquement de cette activité nocturne à laquelle je n'ai jamais failli, non par échappatoire, on l'aura compris, mais parce que j'ai la preuve qu'elle me sert dans mes activités scientifiques les plus quotidiennes. J'ai parlé de Turing et de l'éblouissement ressenti à la lecture de son article sur les morphogènes. Certes, j'avais déjà lu cet article, mais une période où il ne pouvait pas me servir. J'en ai tiré profit dans les circonstances scientifiques qu'on sait que dans une relecture imposée par la collaboration avec Perret, qui travaillait à l'époque sur ce personnage hors du commun. Pour un scientifique obsédé par une question qui ne trouve pas le chemin de sa solution, ce sont parfois des voies détournées et imprévisibles qui offrent un éclairage utile à une reformulation positive. Donner sa place à la rêverie, c'est augmenter ses chances de trouver une issue. Toute proportion gardée, bien entendu, on sait le rôle que la lecture de Malthus ou les discussions autour de la loi des pauvres, sous l'impulsion de séjour londonien de Darwin chez son frère Erasmus, a joué dans l'énoncé de la théorie de la sélection naturelle. Mais il faudra pour cela restituer à la science sa vivacité, priorité des priorités, pour que le doute dont j'ai souvent parlé soit aussi celui qui saisit le citoyen quant à la valeur d'une science qui se présente, trop souvent sans rire, comme un discours de vérité. Que plus de 100 ans après Darwin, on puisse dans des pays les plus technologiquement avancés, opposer comme deux vérités contradictoires et donc de valeurs identiques, intelligent design, stupid design, les théories de l'évolution devraient faire réfléchir. Non, la création du monde racontée par l'Ancien Testament n'a aucune valeur scientifique, n'en déplaise au capitaine Fitzroy. Et les sciences ne sont pas des religions et doivent à tout prix éviter de se présenter comme telles. Contrairement aux dogmes religieux, les théories scientifiques ne sont pas des discours de vérité. Ce sont des constructions intellectuelles humaines, des vérités évolutives, c'est-à-dire éminemment rectifiables, parfois dramatiquement. Et c'est cette activité de rectification, à l'opposé d'un scientisme péremptoire, qui fait de nous des savants, dignes, à notre petite place, d'explorer les voies ouvertes par les grands maîtres. Ne parlant ainsi que pour la biologie, c'est déjà beaucoup, et puis toutes les sciences n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Je m'efforcerai donc de porter un enseignement qui incite à faire une part importante à la fragilité du connaître. Les objets vivants, qui sont le résultat d'une évolution sans fin et sans finalité, sont par là même difficiles à analyser. D'où la nécessité d'admettre que nous risquons à chaque instant de trébucher. Une science biologique qui invente doit accepter le risque de l'erreur. Et il faut, pour progresser, à la fois douter, c'est assez facile, et surmonter son doute, c'est beaucoup plus dur. Si je reviens à ce que fut l'histoire de mon laboratoire, nous n'étions pas en mesure, il y a 20 ans, de savoir si la piste sur laquelle nous nous étions engagés menait ou non à une impasse. Le savons-nous même aujourd'hui. Mais l'important, je crois, est d'avoir, en trichant le moins possible avec nos convictions, en renonçant à appliquer je ne sais quel principe de précautions intellectuelles, exploré cette voie. Je me plais à croire que c'est ce geste qui a été distingué. Je ne saurais, en cet instant, vous dire si nous avons atteint notre but. Quel but, d'ailleurs ? Mais nous n'avions moralement pas le choix. Et chemin faisant, mes collègues le confirmeront peut-être, un certain travail fut accompli et quelques résultats, j'espère, d'importance, pratiques et théoriques, furent glanés, pour ne rien dire du plaisir intellectuel quotidien, l'essentiel sans doute. La seule vérité qui tienne est qu'on se trompe toujours. Mais l'important n'est pas de ne pas se tromper, mais s'étant trompé, d'essayer encore, avec comme seule ambition celle de se tromper mieux, fail better. Beckett ? Oui, Beckett. Merci.
C'était la leçon inaugurale d'Alain Prochian, Géométrie du vivant, le 4 octobre 2007 au Collège de France, dans le cadre de la chaire Processus morphogénétique. Le texte de cette leçon est publié chez Fayard en 2008. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Théo Gomard. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Et un grand merci à la documentation d'actualité de Radio France. Demain, Mathias Flink, renversement du temps, ondes et innovations. Belle fin de journée à l'écoute de France Culture.